إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 56 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafatu Ashab al-Jahim écrit par le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avec les explications et les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans le commentaire qui s'intitule Al-Ta'liq al-Qawim ala kitab Iqtida al-Sirat al-Mustaqim. Et c'est un ta'liq du Cheikh al-Fawzan et il est publié en 5 volumes. Et aujourd'hui, on est arrivé à la page 404 du volume 1. La page 404 du volume 1 du livre de Iqtida Sirat al-Mustaqim avec le ta'liq de Cheikh al-Fawzan. Donc on est presque à la fin parce que le volume 1 il a 469 pages. Donc il reste yani une soixantaine de pages pour terminer le volume 1 inshallah. Donc on continue à partir de l'endroit où on a laissé à la semaine passée et on est toujours dans le sujet de qu'est-ce qui a rapport avec la jahiliya et le fait qu'il est interdit pour les musulmans d'imiter et de suivre tout ce qui a rapport avec la jahiliya et que le fait que quelque chose soit attribué ou rattaché à la jahiliya, la période d'ignorance pré-islamique et à tout ce qui est contraire à l'islam dans ce qui était fait par les mushrikines et autres, que yani, c'est quelque chose que du moment que on attribue à quelque chose le fait d'être ou de faire partie de la jahiliya, eh bien ça signifie que cette chose-là elle est interdite. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il rapporte plusieurs hadiths qui mentionnent la question ou le terme de al-jahiliya et plusieurs choses qui ont été qualifiées comme étant ou comme faisant partie de la jahiliya. J'entends des gouttes d'eau, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une barakallahu fik. On ne veut pas être inondé là. Non. Donc le cheikh il commence, il dit wa mithlu hadha ma rawa Sa'id ibn Abi Sa'id an abihi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي أو فاخر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. فأضاف العبية والفخر إلى الجاهلية بذمها بذلك، وذلك يقتضي يعني ذمهما بكونهما مضافين إلى الجاهلية، وذلك يقتضي ذم كل الأمور المضافة إلى الجاهلية. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne ce hadith en premier. Donc, il cite en premier ce hadith et il dit que c'est rapporté selon Saïd ibn Saïd, selon son père, selon Abi Huraira radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé de vous Ubiyatul Jahiliya, et la fierté, c'est-à-dire la fierté pour les pères, le fait d'être fier de nos ancêtres. Et il dit qu'il ne reste plus que deux choses, soit le croyant qui est pieux, le croyant pieux, ou le pervers malheureux. Et vous êtes des fils d'Adam, et Adam vient de la terre, et des gens, des hommes doivent laisser ou laisseront leur fierté pour des peuples qui ne sont en réalité que du charbon, parmi les charbons de l'enfer, ou les gens qui vont brûler dans l'enfer. Donc ils ne sont que du charbon parmi les exemples du charbon de l'enfer. Et il dit que ils ne valent même pas pour Allah. Ils sont plus insignifiants pour Allah que le scarabée. Je ne sais pas si vous connaissez le scarabée qui roule des boules d'excréments avec ses pattes. Non? Donc il dit, ils sont plus insignifiants pour Allah, ces personnes, que le scarabée qui pousse les choses qui sentent mauvais. Et des choses de ce genre. Donc ça, c'est rapporté par Abu Daoud et d'autres. C'est-à-dire que les musulmans doivent laisser leur fierté qu'ils ont envers leurs pères, envers leurs ancêtres, parmi les mushrikines, les kuffars, et que ces gens-là ont moins de valeur pour Allah que ces scarabées qui poussent des boules d'excréments qui sentent mauvais avec leurs pattes ou avec leur nez, ainsi de suite. Et le cheikh, il dit que le fait que cette fierté soit attribuée ou soit associée à la jahiliya, eh bien ça suffit comme blâme. Ça suffit pour cela comme blâme, et cela implique que du moment que quelque chose est affilié ou rattaché à qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on appelle la jahiliya, eh bien ça comprend ou ça implique un blâme de tout ce qui est associé à cette jahiliya. ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمياء يغضب لعصبة أو لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل قتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني ولست منه. Donc le cheikh, il rapporte un autre hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, selon Abi Qais Ziyad ibn Rabah, selon Abi Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui sort de l'obéissance du dirigeant et se sépare de la jama'a, ou sépare la jama'a, il quitte la jama'a, c'est-à-dire les musulmans qui se sont mis ensemble et qui se sont unis autour de ce dirigeant, qui lui ont obéi, tu te sépares de ceux-là. Tu sors de l'obéissance du dirigeant et tu te sépares de la jama'a et que tu meurs. Eh bien, si tu meurs dans cet état, tu meurs dans un état semblable à celui de la jahiliya, à l'époque où les gens étaient divisés et qu'ils n'avaient pas un seul dirigeant qui les réunissait. Et celui qui combat derrière ou sous une bannière aveugle. Et une bannière aveugle, comme Cheikh al-Islam, il va l'expliquer lui-même, c'est une bannière dont les buts et les objectifs ne sont pas définis clairement. Et donc, les gens combattent derrière cette bannière, mais ils ne savent pas réellement est-ce que cette bannière est réellement islamique ou non. Ou est-ce qu'elle défend réellement l'établissement ou la défense de l'islam et de la charia ou non. Donc ça, c'est interdit de combattre derrière ce genre de bannière, comme c'est le cas de plusieurs parmi les hizbiyyin et les gens de bid'a à notre époque qui prétendent faire le djihad mais qui combattent pour des choses qui sont complètement contraires à l'islam et pour des groupes ou pour des partis ou pour des idéologies de kofre comme la démocratie, la laïcité, les droits de l'homme et les autres idéologies de ce genre. Ensuite, le cheikh il mentionne la suite du hadith qui dit ou qui se met en colère pour un groupe ou un parti ou une tribu, ou bien qui invite à un groupe ou un parti ou une tribu, ou qui défend une asabiyya, une forme d'attachement fanatique à ce genre de groupe ou de parti, de choses qui sont en contradiction avec l'islam ou avec les fondements de la sunna, et qui combat et qui est tué dans ce genre de combat, eh bien il va avoir une fin ou une mort comme s'il a été tué comme dans la jahiliya. Et celui qui sort contre ma umma, c'est-à-dire qui prend les armes et qui se révolte et qui combat ma umma et qui frappe le pieux et le pervers et qui ne fait pas aucune distinction et qui ne s'abstient pas de frapper les croyants d'entre eux et qui ne donne pas le droit à celui qui a une entente ou un engagement avec les musulmans, c'est-à-dire il frappe les musulmans pieux ou pervers et il tue tout le monde sans distinction des croyants et il se permet même de tuer les kuffars qui ont une entente de paix avec les musulmans comme les khawarij. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors je ne suis pas de lui et il n'est pas de moi, il n'est pas de moi et je ne suis pas de lui. Celui qui agit comme ça, je ne suis pas de lui, il n'est pas de moi. أي نعم. وذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء: باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداوة من البغاة والعداة وأهل العصبية. Donc il dit que également dans ce hadith on mentionne les trois catégories que les ulama ont mentionné dans le chapitre de ce qui a rapport avec les combats qui peuvent avoir lieu entre les musulmans. C'est le fait de mentionner par exemple Al-Bourat. Et Al-Bourat, c'est ceux qui font une dissension, combattent le dirigeant pour quelque chose quelconque. Wa Al-Adat wa Ahlul Asabiyya. Et Al-Adat, c'est comme les Khawarij par exemple, ou bien les gens qui combattent pour des causes tribales ou nationalistes ou autres parmi les différentes causes pour lesquelles ils se dissocient ou distinguent du reste des musulmans. فالقسم الأول خارجون عن طاعة السلطان فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه لإمام مات ميتة جاهلية فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرتهم. Donc la première catégorie parmi les trois, c'est ceux qui sont sortis de l'obéissance du dirigeant, al-Bughat, et ils ont interdit, ils sont interdits dans ce hadith de sortir contre l'obéissance du dirigeant et de sortir de la jama'a. Et ils sont, ici dans le hadith, ils clarifient que s'ils meurent dans cet état-là, pendant qu'ils se sont séparés de la jama'a, qu'ils ont refusé d'obéir aux dirigeants dans le bien, que leur mort sera comparable à la mort de la jahiliya. C'est-à-dire que les gens de la jahiliya, avant l'islam, parmi les arabes et autres, ils ne connaissaient pas ou ils n'étaient pas des gens qui acceptaient d'obéir à un seul dirigeant qui les réunissait, comme c'est connu dans leurs histoires. Les Arabes, ils étaient tous divisés en tribus, puis chaque tribu se combattait les unes contre les autres. Donc ils ne connaissaient pas le fait d'être unis autour de l'obéissance à un seul dirigeant. Et l'islam est venu apporter justement ce genre d'union et ce genre de jama'a que les Arabes ignoraient, ils ne connaissaient pas. Et c'est pour ça donc que ceux qui essaient de s'opposer à l'autorité du dirigeant et sortent de son obéissance sont donc en fait, s'ils meurent dans cet état-là, comparés aux gens de la jahiliya. Et ils meurent d'une mort semblable à celle de l'époque de la jahiliya. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent mécréants, mais ça veut dire qu'ils meurent dans le péché et dans cet état-là. Il dit ensuite le cheikh, ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو بلده أو أهل بلده ونحو ذلك. Il dit ensuite, il mentionne celui qui combat par fanatisme ou bien par attachement à son peuple ou par fierté pour son peuple, pour les gens de son pays, même si ce sont des gens qui ne combattent pas pour la vérité ou qui ne sont pas avec la vérité. Et donc il dit وَسَمَّ الرَّايَ عَمْيَا. Et dans d'autres versions c'est الرَّايَ عَمِّيَا. Il dit لِأَنَّهُ الْأَمْرُ الْأَعْمَى الَّذِي لَا يُدْرَى وَجْهُ فَكَذَلِكَ قِتَالُ الْعَصَبِيَّةِ يَكُونُ عَنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِجَوَازِ بِقِتَالِ هَذَا بِجَوَازِ قِتَالِ هَذَا. Donc le cheikh il dit, il appelle cette bannière derrière laquelle certains combattent une bannière aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire, une bannière aveugle? Ça veut dire qu'on ne sait pas pourquoi réellement il combat. Est-ce que c'est un combat qui est licite ou légal ou non? Peut-être que la personne combat pour des choses qui sont contraires à l'islam. Dans le sens que la personne ne combat pas pour Allah, pour établir la parole d'Allah, pour élever la parole d'Allah, mais elle combat pour des causes tribales ou nationalistes, ou pour la dunya, ou pour la fierté, ou pour des idéologies qui sont des kuffars, qui sont contraires à l'islam et des choses de ce genre. Donc, on appelle ce combat un combat aveugle, ou une bannière aveugle. Et aussi, ça rentre dans le combat pour quelque chose qui a rapport avec l'attachement ou le fanatisme pour une tribu ou pour une nationalité ou pour quelque chose comme ça. Donc, c'est des cas où, quand on combat et qu'on ignore, est-ce que le combat en question est permis ou non. Tout est confus, tout est mélangé. Surtout quand dans certains pays, certains prétendent aller faire le djihad, et dans le même pays en question, il y a comme 5 ou 6 groupes qui prétendent chacun être en train de faire le djihad, et ils se combattent tous l'un contre l'autre, et ils ont chacun une bannière différente, comme en Syrie ou ailleurs. Et donc, ça c'est pas un combat islamique. Ça c'est pas un djihad islamique. Puisque dans le djihad, il doit y avoir une seule bannière. Une seule bannière. Et tous les musulmans doivent être derrière cette bannière. Et la bannière doit être claire. Il ne faut pas que ce soit une bannière qui est douteuse ou ambiguë ou incertaine. Dans le sens qu'on ne sait pas pour qui il combat, pourquoi il combat, et pour qui est avec qui et qui est avec quoi. Donc les gens, parfois, ils partent là-bas, ils arrivent, ils tombent sur un groupe. Donc ils partent avec eux. Et après, ils voient que ce groupe-là combat en fait d'autres personnes qui sont musulmans aussi. qui sont sur l'islam, ils sont en train de s'entretuer alors que les deux groupes sont musulmans. Et peut-être que certains d'entre eux, ils se déclarent kuffar les uns les autres, sans raison. Donc tout ça, c'est des exemples de qital, yani, qui sont, comme on dit, a'ma, ou bien amya. Hein? Le cheikh, il dit, وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. Il dit que la personne qui est mort ou qui s'est fait tuer dans ce genre de combat, il a été appelé, comme si on dit qu'il a été tué de façon comme dans la jahiliya. Et peu importe qu'il a été en colère dans son cœur, ou qu'il a parlé ou invoqué avec sa langue, ou qu'il a frappé avec sa main dans ce combat-là. Donc, même s'il n'a pas participé physiquement au combat, mais qu'il a été avec, dans son cœur, il a été d'accord, il a supporté ça. Parce que des fois, il y a des gens, ils ne vont pas participer eux-mêmes au combat, mais dans leur cœur, ils ont déjà un parti pris, ils sont déjà d'accord avec la position de certains groupes d'entre eux. Même s'il n'a pas été, hein, ce n'est pas nécessaire que tu sois parti avec Daesh pour que tu sois considéré comme quelqu'un qui fait partie des Khawarij. Même Cheikh Al-Fawzan, il a dit, même si tu n'as jamais été avec eux, même si tu n'as jamais fait d'acte de terrorisme avec eux, même si tu n'as jamais rien fait avec eux, mais du moment que dans ton cœur, tu les défends, et tu les aimes, et tu es fâché s'il leur arrive quelque chose, et tu es content quand ils font des choses, le fait que tu as ça dans ton cœur, ça veut dire que tu es déjà avec eux, et tu es un khariji. Hein? C'est comme ça. C'est pas nécessaire que ce soit quelque chose que, yani, tu as agi avec tes mains ou avec ton corps. De même que si tu as invoqué pour eux, la même chose. Tu fais des doigts pour que Allah les aide, ou pour que Allah leur donne la victoire, ou pour qu'ils aient le succès. Tu es avec eux aussi, dans ce cas-là. Tu fais partie de ces gens-là, de ces khawarij. Et aussi, si tu as frappé avec ta main, donc ça c'est encore plus. Hein. Donc, c'est pas nécessaire que, comme on a dit, c'est pas nécessaire que tu sois là physiquement. Si tu es avec eux dans ton cœur, ou par tes paroles, tes invocations, ou ton action, là, dans ce cas-là, tu es avec eux. D'accord? Donc ça, c'est là qu'on voit comment l'islam est, c'est quelque chose qui est sérieux. C'est quelque chose qui est complet. C'est pas, par exemple, de dire à quelqu'un, comme les koufars, par exemple, dans leur loi, ils vont dire, par exemple, oui, mais tant que tu fais pas l'acte, hein, que t'as pas fait l'acte, ou que t'as pas fait l'apologie ou la défense du terrorisme, là, on peut pas rien te faire. On peut pas dire rien contre toi, non. Dans l'islam, même si t'as rien dit, même si t'as rien dit avec ta bouche pour les défendre, même si c'est juste dans ton cœur que tu les défends, tu n'as jamais prononcé rien pour les défendre ouvertement ou pour être avec eux avec ta bouche, mais du moment que tu les aimes dans ton cœur avec leurs égarements, déjà t'es déjà condamné. Et Allah, il sait qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Hein? Donc si tu les défends, t'es avec eux, même si tu le dis pas avec ta bouche. Et il dit وَقَدْ فَسَّرَ ذَلِكَ. Ça c'est comme les munafiqin. Munafiqoun, c'est des gens, ils se disent musulmans, ils font la prière, ils font le jeûne, mais dans leur cœur, ils détestent l'islam. Est-ce que parce qu'ils n'ont pas dit ouvertement qu'ils sont kuffar, on va dire non, Allah ne va pas les punir, Allah ne les considère pas kuffar? Non, ils sont des kuffar, même s'ils ne le disent pas. Hein? Parce que dans leur cœur, ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas d'iman. Donc c'est la même chose pour les gens de bid'a. Celui qui aime la bid'a dans son cœur et qui la défend dans son cœur, même s'il ne l'a pas dit, il est avec la bid'a. Après il dit le cheikh, وَقَدْ فَسَّرَ ذَلِكَ فِي مَا رَوَاهُ مُسْلِمُ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قُتِلُ ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. القاتل لا يدري على أي شيء قتل أو قتل, ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. نعم, الله المستعان. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج, القاتل والمقتول في النار. Donc ça, c'est un hadith qui explique cette situation-là. Il dit, comme c'est rapporté par l'imam muslim, hein, selon Abi Huraira radiallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va arriver une époque sur les gens. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Écoutez bien ce hadith, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va y arriver une époque pour les gens, la personne qui tue, elle ne va même pas savoir pour quelle raison elle a tué, ou pour quelle chose elle a tué. Et ni celui qui a été tué, il ne va même pas savoir pourquoi il a été tué. Alors les sahabas ont demandé, pourquoi, ô messager d'Allah, qu'est-ce que c'est cette situation? Il a dit, al-harj. Al-harj, c'est-à-dire une situation dans laquelle celui qui tue, il ne sait pas pourquoi il a tué, et celui qui a été tué, il ne sait pas pourquoi non plus. La yadri al-qadil lima qatal wa al-maqtul lima qutil. Ça, c'est la fitna. Et il a dit, celui qui tue et celui qui a été tué sont dans l'enfer tous les deux. Hein? Puis il y a une autre version de ce hadith-là qui dit, ô messager d'Allah, on comprend que celui qui tue soit en enfer ou soit dans le feu. Mais que dire de celui qui a été tué? Lui, il est une victime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un avait l'intention de tuer son frère. Si l'autre il l'aurait pas tué, ce serait l'autre qui l'aurait tué. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, le tueur et celui qui a été tué, les deux sont dans l'enfer. Ils ont dit, ah mais comment? Celui qui a été tué, même lui, il va aller en enfer? Oui. Parce que sinon, si c'était pas lui, si c'était pas lui qui aurait été tué, c'est lui qui aurait tué l'autre. Donc c'est grave. وقال القسم الثالث, troisième catégorie, c'est الخوارج على الأمة. إما من العداة, نعم, الذين غرضهم الأموال كقطع الطريق ونحوهم, أو غرضهم الرياسة كمن يقتل أهل مصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلة, أو من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه. Donc il dit, la troisième catégorie, ce sont les khawarij, ceux qui sortent contre la umma, hein? Soit par rapport à ceux qui sont des gens qui ont uniquement comme intention, qui ont uniquement comme intérêt, comme intention, les biens et la richesse de la dunya. Donc c'est des gens, ils combattent les musulmans, pourquoi? Pour prendre leur richesse, pour prendre leurs biens, comme les brigands, hein, les bandits, des choses de ces catégories de gens, ceux qui à l'époque cambriolaient les caravanes de voyageurs, ou les caravanes qui transportaient des marchandises précieuses. Eh bien, eux, ils venaient comme un peu à l'époque là, comme à l'époque dans le Far West, les cowboys qui attaquaient les caravanes. Donc, dans les pays musulmans, il y avait aussi des gens qui étaient ils vivaient comme ça à l'extérieur des villes, ou bien dans les villes, mais ils attendaient qu'une caravane sorte ou parte, et puis ils les attaquaient pour voler les richesses des musulmans et l'argent. Donc ça, c'est une catégorie. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'argent. Il y en a d'autres, ils vont attaquer les musulmans, ils combattent les musulmans dans le but d'avoir le pouvoir. Et comme ceux, par exemple, qui attaquent les habitants d'une ville, hein, qui sont sous le pouvoir de quelqu'un d'autre, puis ils les combattent et les tuent, même s'ils ne font pas partie des combattants, ou ainsi de suite. Ceux qui sortent contre la sunna, ceux qui sortent contre la sunna et qui rendent licite le sang des gens de la Qibla, comme par exemple les Khawarij al-Haruriya, ceux que Ali radiallahu anhu a combattu. Et il dit « Thumma innahu sallallahu alayhi wa sallam samma al-mayta wal-qitla maytatan jahiliya wa qitlatan jahiliya ala wajhi al-dhamm laha wal-nahy anha wa illa lam yakun qad zajara an dhalik. » Il dit que la mort et la personne qui a été tuée dans cette façon-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés « mort de la jahiliya » ou le fait d'être tué d'une façon semblable à celle de l'époque de la jahiliya. Le fait qu'ils disent que ça fait partie de la jahiliya, c'est pour les blâmer et pour interdire de mourir dans cet état-là. Et sinon, il n'y aurait pas de blâme. Si le fait que ce soit décrit comme faisant partie de la jahiliya, ce ne serait pas pour l'interdire, donc il n'y aurait pas de blâme. Hein? Si ce n'était pas pour les blâmer, pour montrer que c'est quelque chose de mal, donc il n'y aurait pas de blâme de dire que quelque chose fait partie de la jahiliya. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les décrit comme faisant partie de la jahiliya pour les critiquer, pour les blâmer, pour montrer que c'est quelque chose de mauvais et d'interdit dans l'islam. إذ فعلم أنه قد تقرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة وقتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه، وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب. Donc le cheikh il dit, donc on sait que, comme ça a été expliqué chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tout ce qui a été associé ou relié à la jahiliya, que ce soit la façon de mourir ou la mort dans un état de jahiliya, comme celui qui est mort en rejetant l'autorité de son dirigeant, et bien que ça c'est quelque chose qui est blâmé, qui est interdit. Et il dit que ça implique un blâme de tout ce qui fait rapport ou tout ce qui a un lien avec la jahiliya. Et c'est ça l'objectif de qu'est-ce que le cheikh mentionne ici. Il cite un autre hadith maintenant. Il dit وَمِنْ هَذَا مَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مِعْوَرْ إِبْنُ سُوَيْدِ قَالْ رَأَيْتُ أَبَا ذَرْ عَلَيْهِ حُلَّهِ وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وفي رواية قلت على ساعتي هذه من كبر السن ها؟ يعني على ساعتي هذه من كبر السن قال نعم هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يأمى يبلغهم أو ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. Donc le cheikh il mentionne un hadith comme ça qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Mi'war ibn Suwayd, il dit j'ai vu Abu Dhar, il portait une hulla, un beau vêtement, et j'ai vu son servant qui était avec lui, un jeune servant qu'il avait, qui portait le même vêtement que lui, même tissu, même modèle de vêtements, même qualité. Alors il lui a posé une question à propos de ça. Il dit, pourquoi ton servant, ton jeune servant, il porte les mêmes vêtements que toi? Il était étonné de ça. Alors il lui a mentionné qu'il avait, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, insulté un homme, et qu'il l'avait insulté, et, ou bien il l'avait, disons, dénigré par rapport à sa mère, ou par rapport à l'origine de sa mère. Alors, l'homme est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a mentionné ce que Abu Dharr avait dit. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, tu es quelqu'un qui a en lui de la jahiliya, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'ignorance en lui. Et ça, c'est le cas de certaines personnes parfois qui se convertissent à l'islam, mais gardent encore en eux des caractéristiques de la période qu'ils avaient, comment ils étaient avant l'islam. Et ça, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Donc ça, c'est des exemples de mauvais comportements ou d'attitudes qu'on peut avoir qui restent de notre époque pré-islamique, des séquelles, comme on dit. Et il dit dans une autre narration, Abu Dharr a dit, est-ce que à cette heure-ci, alors que je suis arrivé à cet âge, c'est-à-dire que je suis devenu maintenant plus vieux, je suis devenu vieux maintenant, et j'ai encore en moi de la jahiliya? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Il a dit, ce sont vos frères et vos oncles, hein, vos frères et... Il dit, ce sont vos frères. Wa khawalukum, khawalukum, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Après, il dit que Allah les a mis sous vos mains, sous votre autorité. Ces servants que vous avez, ces esclaves que vous avez, ce sont vos frères. Ils sont musulmans, donc ce sont vos frères. Et Allah les a mis sous votre autorité, sous votre main. Alors, celui qui il a sous son autorité de ses esclaves, alors qu'il le nourrisse de ce qu'il mange lui-même, et qu'il l'habille de ce qu'il porte lui-même, et qu'il ne leur donne pas une charge qu'ils ne peuvent pas supporter. Et s'il leur donne une charge trop lourde ou plus lourde, eh bien qu'il les aide à le faire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'il les aide à le faire. Donc c'est pour dire que, en fait, les sahaba, yani, quand ils s'habillaient, ils faisaient porter à leurs servants les mêmes vêtements qu'eux-mêmes portaient. Et ils leur faisaient manger de leur propre nourriture. Et on ne pouvait pas les distinguer, les esclaves, de ceux qui n'étaient pas des esclaves, parce qu'ils s'habillaient de la même façon, ils mangeaient la même nourriture. Ça, c'est l'enseignement de l'islam. C'est pour ça que les gens ils disent, comment ça se fait que dans l'islam, il y a de l'esclavage? Il y a qu'est-ce qu'on appelle l'esclavage, parce que certains ils disent non, l'esclavage ça a été interdit, hein? Non, l'esclavage ça existe, hein? Ça existe dans le judaïsme, ça existe dans le christianisme, ça existe dans l'islam, et ça existe même chez les mouchriquins et les koufars. C'est quelque chose qui a toujours existé et ça va toujours exister, même si aujourd'hui ils disent qu'il n'y a plus d'esclavage. Il y a encore des hommes qui sont traités comme des esclaves, même s'ils prétendent que ce n'est pas vrai. Il y a encore de l'esclavage. Personne ne peut nier ça. C'est une réalité de l'humanité. Et même s'il n'y a pas d'esclavage, il y a toujours des hommes riches et des hommes pauvres. Des hommes qui possèdent beaucoup et d'autres qui possèdent rien. Allah, il a voulu que ce soit comme ça pour une sagesse. Pour mettre les hommes à l'épreuve et pour les tester. Est-ce qu'ils vont être justes? Est-ce qu'ils vont être honnêtes? Est-ce qu'ils vont être généreux? Est-ce qu'ils vont être bons? Ou bien est-ce qu'ils vont être méchants et durs et sans pitié et sans miséricorde. Après il dit fa fi hadha al hadith anna kull ma kana min amr al jahiliya fa huwa madhmum anna qawluhu fika jahiliya dhamm li tilka al khisla falawla anna hadha al wasf yaqtadhi dhamm ma ishtamala alayhi lama hasala bihi al maqsoud. Donc le cheikh il dit, dans ce hadith, il y a que tout ce qui fait partie des questions ou des affaires de la jahiliya, c'est quelque chose qui est blâmable. Et le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dise, il y a en toi de la jahiliya, ça c'est un blâme de cette caractéristique-là qui est présente en cette personne. Hein? Et si le fait, hein, si ce n'était pas le cas, que cette caractéristique-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « il y a de la jahiliya en toi », si ça ne comprenait pas un blâme, hein, eh bien, il n'y aurait pas eu de raison ou de sens à dire à la personne qu'elle a de la jahiliya en elle. Et donc le cheikh dit « wa fihi anna ta'yir bil ansab min akhlaq al jahiliya ». Si quelqu'un, tu l'insultes par rapport à son origine, par rapport à sa couleur, par rapport à son peuple, par rapport à sa race, par rapport à sa langue, tu dis « ah toi, tu ne vaux rien, tu es de tel peuple, tu es de telle origine. Hein? Votre peuple, vous ne valez rien, vous n'êtes pas bon. Vous êtes, hein? Parce que tu n'es pas bon parce que tu es de telle origine, tu es de telle couleur, tu es de tel peuple, tu es de telle race. » Non, ça fait partie de la jahiliya. Celui qui fait ça, il a une caractéristique de la jahiliya, de l'ignorance. On n'a pas le droit de faire ça. Il dit wa fihi anna ar-rajul ma'a fadlihi wa 'ilmihi wa dinihi qad yakun fihi ba'd hadhihi al-khisal al-musamma bi jahiliya wa yahudiyya wa nasraniyya wa la yujibu dhalika kufrahu wa la fisqahu. Le cheikh il dit, il est possible qu'un homme, malgré que ce soit quelqu'un qui a de la science, du mérite et de la religion, il est possible qu'il ait en lui certaines des caractéristiques qu'on appelle de la jahiliya ou du judaïsme ou du christianisme. C'est possible que quelqu'un, il ait une caractéristique juive. C'est un musulman, il a de la science, il a de la religion, mais il a des caractéristiques en lui du judaïsme ou des juifs ou des chrétiens ou de la jahiliya, de l'ignorance. Et il dit, et ça ne veut pas dire qu'il est mécréant, et ça ne veut pas dire qu'il est pervers non plus. Le cheikh il dit, وَأَيْضًا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِ عَنْ نَافِعِ ابْنُ جُبَيْرِ ابْنُ مُطْعِمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةً مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمْ ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam muslim, selon Nafi' ibn Jubayr ibn Mut'im, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les personnes les plus détestées parmi les hommes pour Allah sont de trois catégories d'hommes. Mulhidun fil haram, celui qui veut faire des péchés ou de la dissension ou des problèmes dans le haram, il y a la Mecque ou à Médine, le lieu saint, le lieu sacré. Wa mubtaghin fil islam sunnat al jahiliya, celui qui dans l'islam cherche à suivre les voies de la jahiliya, les méthodes pré-islamiques. Ou muttalibun dam imri'in bi ghayri haqqin li yuhri qadamah, celui qui cherche à faire couler le sang de quelqu'un injustement, juste pour le tuer, juste pour faire couler son sang. Il dit wa akhraja sallallahu alayhi wa sallam akhbara sallallahu alayhi wa sallam أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا فأعظم فساد الدين قتل النفوس بغير حق أعظم فساد الدنيا عفوا قتل النفوس بغير الحق ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان، نوع يتعلق بالعمل ونوع يتعلق بمحل العمل. Donc le cheikh il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que la chose la plus détestée, donc comme on a dit, c'est trois choses. Les hommes les plus détestés pour Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ce sont de trois catégories. Et ce sont des raisons pourquoi Allah les déteste, ces trois catégories de personnes, c'est parce qu'ils font du désordre. Ce sont des gens qui font du désordre. Soit que c'est du désordre relié à la religion, il fait du désordre dans la religion, ou bien il fait du désordre dans la dunya. dans les choses de la vie. Et il dit, le plus grand forme, la plus grande forme de désordre qu'on peut faire dans la dunya, c'est de tuer, hein, de faire un meurtre, de tuer quelqu'un injustement. Et ça, c'est pour ça que le meurtre, c'est le plus grand des grands péchés, hein, après le plus grand désordre dans la religion qui est le kufr. Après le kufr, le plus grand des grands péchés, c'est le meurtre. Et en ce qui concerne la corruption dans la religion, ou le désordre dans la religion, c'est de deux catégories. Une des catégories est reliée à l'action, ou à l'acte, ou à l'acte elle-même, et l'autre catégorie est reliée à l'endroit où l'acte est commis, où l'acte est fait. Il dit, en ce qui concerne ce qui est relié à l'action, أما فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم لأن أعظم محل العمل هو الحرم وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني ولهذا حرم من تناول المباحات ومن من الصيد ومن الصيد والنبات في البلد الحرام ما لا يحرم مثله في شهر الحرام. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne l'action, qu'est-ce qui est relié à l'action, c'est de chercher à suivre les voies de la jahiliya. En ce qui concerne ce qui a rapport avec le lieu où l'action est faite, eh bien c'est comme par exemple de faire des péchés ou de la mécréance, ou des péchés dans un lieu sacré, comme à la Mecque ou à Médine. Et c'est comme dans le dars qu'on écoutait hier à propos des kaba'ir. Il dit, un péché peut être parmi les kaba'ir, et parfois même, à l'intérieur d'un même péché, il peut y avoir des degrés plus graves de ce qui a rapport avec ce péché-là. Et il donnait l'exemple, par exemple, de celui qui fait un péché dans un endroit sacré. Hein? Celui, par exemple, qui vole, hein, dans une ville quelconque, c'est un péché, c'est grave, ça fait partie des kaba'ir. Mais si tu vas voler à la Mecque, c'est encore plus grave. Hein? Si tu vas voler à la Mecque ou à Médine, c'est encore plus grave que si tu volais ailleurs. Et si tu voles, par exemple, en plus, à la Mecque et pendant le Ramadan, pendant le jeûne, c'est encore plus grave, hein, par rapport au moment, puis par rapport à l'endroit qui est sacré. Il y a des moments sacrés où on est supposé, hein, de faire de craindre encore plus Allah que d'habitude. Donc ça, c'est des exemples. Et donc, c'est ça ce que le cheikh explique ici. Il dit, donc de faire des péchés dans le haram, c'est plus grave que de les faire ailleurs. Hein, parce que on a atteint ou porté atteinte à l'aspect sacré du lieu. Et c'est plus grave que d'avoir porté atteinte à un endroit ou à une époque, une période. Hein, la période. Le lieu, c'est plus grave que la période. Il dit par exemple de chasser dans le haram. C'est quelque chose qui est permis de le faire ailleurs, mais dans le haram, c'est pas permis de chasser. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Et de couper les plantes et les arbres, c'est pas permis. Tandis que ça, c'est permis ailleurs. Hein? Même si, par exemple, c'est dans les mois sacrés. C'est permis de le faire ailleurs que dans le haram. Donc le cheikh, il dit, « وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّ حُرْمَةَ الْقِتَالِ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ بَاقِيَةَ كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام الشهر الحرام فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة الجاهلية. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qui est authentique ou qu'est-ce qui est correct, c'est que il est interdit de combattre dans les terres saintes à la Mecque et à Médine. Ça reste. Tandis que tandis que qu'est-ce qui est correct dans les textes authentiques, c'est pas le cas pour le fait de combattre dans les mois sacrés. Hein? Peut-être qu'avant c'était interdit, mais maintenant c'est pas qu'est-ce qui a été supporté par les textes authentiques, c'est que c'est pas comme dans les villes sacrées. Les mois sacrés, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné de faire des péchés dans Al-Haram et de suivre les sunnahs ou les voies de la jahiliya. Le shaykh il dit والمقصود أن هؤلاء الثلاثة من ابتغاء من من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فسواء قيل متبع أو غير مبتغ أو غير مبتغ فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث. Donc il dit qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est que parmi les trois, il y a celui qui recherche à suivre les voies de la jahiliya, peu importe qu'on dit suivre ou rechercher, c'est la même chose. L'ibtira, ça veut dire chercher et vouloir. Donc celui qui veut dans l'islam faire des actes, faire quelque chose qui fait partie de la jahiliya, fait partie des gens qui sont les plus détestés par Allah. Après le cheikh il dit, cheikh Al-Fawzan il explique, il dit قوله أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم إلى آخره المقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أمور منها ما هو من أمور الجاهلية وهذا محل الشاهد من الحديث. Donc il dit, il veut mettre en garde contre des choses qui font partie de la jahiliya. C'est ça l'important dans le hadith. الأمر الأول الملحد في الحرم والملحد هو الذي يفعل الإلحاد يعني المعصية لأن الإلحاد في اللغة هو الميل والمعصية ميل عن طاعة الله سبحانه وتعالى والمعصية محرمة في أي مكان لكنها في الحرم أشد حرمة ولأنها مع كونها معصية فهي انتهاك لحرمة الحرم فيجتمع فيها مفسدتان وقد توعد الله فاعل ذلك بالعذاب الأليم فقال سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique que la première chose qui est mentionnée dans le hadith c'est al-mulhid fi al-haram. Et al-mulhid, il dit qu'est-ce qu'on veut dire par al-mulhid? C'est celui qui fait l'acte de al-ilhad. Et l'acte de al-ilhad, il dit c'est-à-dire le péché. Al-ilhad, certains le traduisent par l'athéisme, mais c'est pas juste limité à l'athéisme. Le mot ilhad signifie dans la langue arabe le fait d'avoir un penchant ou de pencher ou de s'incliner vers quelque chose. Et ici, on veut dire le péché, puisque c'est comme si tu t'inclinais du sens contraire de l'obéissance d'Allah, donc vers la désobéissance. Et c'est sûr que de désobéir à Allah, c'est interdit, peu importe le lieu, mais si tu le fais dans un endroit comme le haram, un lieu sacré, eh bien c'est encore plus sacré, c'est encore plus grave, qu'est-ce que tu fais. Et le cheikh il dit aussi que parce que même si c'est un péché ou une désobéissance, c'est en même temps une atteinte à l'aspect sacré du lieu. Et donc, tu réunis entre deux méfaits et entre deux choses négatives. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la menace pour celui qui faisait ce genre de choses. Il dit dans le verset 25 dans Surat Al-Hajj, quiconque cherche à y commettre un sacrilège, Al-Ilhad, injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Donc ça veut dire que si tu fais un péché à la Mecque, pendant le Hajj ou pendant le Hajj tu fais un péché à la Mecque ou bien à Médine ou bien dans les Terres Saintes, eh bien le châtiment va être beaucoup plus grand et beaucoup plus grave que si tu faisais ce péché-là ailleurs. Et comme c'est mentionné dans le verset. Et le deuxième point, al-amr al-thani mubtaghin sunnatan jahiliyatan wal murad bis-sunnah lughatan at-tariqa wa yurad biha huna عمل شيء من أعمال الجاهلية كالنياحة على الميت أو التعصب للقبيلة أو الأفراد. ومن سنن الجاهلية يعني أو الاستسقاء بالنجوم يعني وغير ذلك من أمور الجاهلية وخصالها. فالذي يحيي سنة من سنن الجاهلية فقد ارتكب إثما عظيما، لأن الإسلام جاء لمحو الجاهلية وإزالتها وإبعاد الناس عنها، لأنها شر محض. فالذي يحيي سنة من سنن الجاهلية يكون ذنبه أعظم. Donc le cheikh il explique que la deuxième chose c'est la personne qui cherche à suivre les voies de la jahiliya. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le terme sunnat al-jahiliya ici? C'est la voie. Hein? Et il dit donc que ça veut dire celui qui veut faire les actions parmi les actions de la jahiliya, comme par exemple de pleurer par rapport au mort, de faire des lamentations, ou bien de mentionner les éloges du mort après sa mort, ou bien d'être fanatique envers notre tribu ou envers un individu, de suivre aveuglément, ou d'être fanatique, hein, d'être passionnément fanatique pour les défendre, même dans le faux, hein, tu veux les défendre même quand ils font l'injustice, ou bien tu espères ou tu souhaites ou tu penses que la pluie vient des étoiles, ou d'autres parmi les exemples de la jahiliya. Tout ça sont des choses qui sont yani caractéristiques de la jahiliya. Et l'islam est venu pour effacer tout ce qui a rapport avec la jahiliya. Donc celui qui fait ces péchés-là, il a fait un grand péché. Pourquoi? Parce que l'islam est venu pour effacer et anéantir la jahiliya. Et toi, tu es en train de ramener la jahiliya en faisant ces actions-là. Hein? L'islam est venu pour éloigner les gens de ça, hein? Parce que c'est un mal pur. Et donc toi, tu reviens faire revivre ces formes de jahiliya. Donc celui qui fait revivre ça, il fait un plus grand péché. والأمر الثالث إراقة دم امرئ مسلم أو معاهد بغير حق وهي النفس التي حرم الله إما بالإسلام وإما بعقد الذمة. فالذي ينتهك هذه الحرمة يتعرض لغضب الله. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، فدل على أننا ممنوعون من كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة من الأقوال والأفعال والاعتقادات وغير ذلك. Donc le cheikh dit la troisième chose c'est de faire couler le sang d'un musulman ou d'un non-musulman qui est protégé par une entente de paix. Hein? Donc tu le tues injustement, ça c'est quelque chose qui fait partie des plus grands péchés. Parce que ces âmes-là font partie des âmes que Allah a interdit de tuer et qu'il a rendu sacrées. Soit qu'il les a rendues sacrées par l'islam ou parce qu'il y a un contrat ou une entente de paix qui a été signé et qui protège ce non-musulman-là. Donc celui qui brise et qui détruit cette entente sacrée ou ce lien, cette entente ou ce pacte sacré qui protège la vie de cette âme, eh bien, il est soumis ou il est sujet à être sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 93 dans Surat An-Nisa, ce qui signifie وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. C'est-à-dire, et quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, hein, et l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Donc ça c'est le verset en question. Et donc c'est ça c'est un exemple par rapport au fait de tuer un croyant. Et il dit à propos du kafir qui est sous une entente de paix avec les musulmans, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui tue un non-musulman, un kafir, qui est sous la protection d'une entente de paix, hein, son peuple est dans, on lui a donné une entente de paix, eh bien si le musulman le tue, il ne sentira pas l'odeur du paradis, malgré que son odeur peut se sentir d'une distance de 30 ans, hein, 30 années. Donc ça c'est pour montrer la menace et la gravité du fait de faire ce genre de choses. Et il dit le point qu'on a voulu citer par rapport à ça dans le hadith, c'est la question qui quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que parmi les trois que Allah déteste le plus, c'est la personne qui recherche à faire dans l'islam, à suivre dans l'islam les voies de la jahiliya. Parce qu'on est en train de mentionner tout ce qui a rapport avec la jahiliya. Et donc, ça c'est la preuve que on est interdit de faire tout ce qui est relié à la jahiliya. Peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être. Peu importe que cette chose soit parmi les paroles, ou parmi les actions, ou parmi les croyances qui ont rapport avec la jahiliya. Et le cheikh il dit « Wa abradu an-nas ila Allah thalatha » Parmi les hommes, il y en a trois qui sont les plus détestés d'Allah. « Ay anna a'zama an-nas jurman hum ha'ula ath-thalatha alladhina yuhyi sunnat al-jahiliya sunnat al-jahiliya fi al-islam والذي يلحد في الحرم والذي يقتل نفسا محرمة بغير حق ولا شك أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك فالله جل وعلا يقول ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فالله حرمها بالإسلام أو حرمها بالعهد ثم من المعلوم أن المعصية في المكان المحرم أعظم من المعصية في أي مكان آخر لأنه يجتمع في ذلك حرمتان حرمة فعل المعصية وحرمة انتهاك الحرم فالذي يفعل هذه الجريمة يكون إثمه أشد. Donc il résume le cheikh ce qu'il a dit précédemment, c'est que la personne qui est plus détestée par Allah c'est ces trois personnes. Et pourquoi? Parce que ces gens-là, ils font des grands crimes. Hein? Celui qui fait revivre la voie de la jahiliya, ou celui qui fait des péchés dans le haram, ou celui qui tue une âme qui est interdite, hein? Et qui la tue sans droit et injustement. Donc il n'y a pas d'autre que de tuer, ça fait partie. Hein? Si tu tues injustement quelqu'un, ça fait partie des plus grands parmi les plus grands péchés après le shirk. Et Allah il dit dans le Coran, dans le verset 33 dans Sourate Al-Isra, et ne tue pas une âme que Allah a rendue interdite ou sacrée, excepté pour un droit quelconque. Donc celui qui tue une âme qui a été rendue sacrée, soit par l'islam ou soit par l'entente de paix, eh bien c'est connu que cette personne-là, elle a commis un grand péché, puis également celui qui fait un péché dans un endroit qui est sacré, eh bien, il fait quelque chose de plus grave que celui qui fait un péché dans un autre endroit que cet endroit-là, et il a réuni deux péchés ensemble. Le péché de faire l'acte qui est interdit et le péché d'avoir porté atteinte à ce lieu sacré également. Et donc, tout ça, ça fait que ces crimes-là sont encore plus graves. Il dit ensuite وقوله ولهذا والله اعلم ذكر الالحاد في الحرم وابتغاء السنه الجاهليه اي ان هاتين الخصلتين من اشد المحرمات فهذا دليل على شناعه احياء امور الجاهليه وانها قرينه الالحاد في الحرم مع ما في الالحاد في الحرم من الغلظه وشده الاثم. Donc c'est ça, il continue à expliquer que ces deux caractéristiques-là, c'est-à-dire de faire un péché dans le haram et de chercher les voies de la jahiliya, eh bien, ces deux caractéristiques parmi les plus dures, ou les plus graves parmi les interdictions et les péchés, et c'est à cause de la laideur de ces péchés-là et la sévérité de les avoir faits. Il dit « Wa ma'na mubtarin fil islam sunnatun jahiliya, sunnatun jahiliya, na'am » من أراد أن يحيى شيئا من أمور الجاهلية عند المسلمين فإنه من أشد الناس إثما عند الله سبحانه وتعالى سواء دعا إليها أو فعلها بدون دعوة فالواجب على المسلمين ترك أمور الجاهلية وما كانت عليه من العادات الباطلة والسنن الضالة لأن الله أغنانا بالإسلام عن أمور الجاهلية ومثله من يحيي آثار الجاهلية وينقب عنها ويهيئها للزوار والصياح ويفتخر بها كما تفعله بعض الجهات اليوم. Donc le cheikh il dit celui qui recherche à suivre les voies de la jahiliya dans l'islam, il dit, c'est-à-dire celui qui cherche à faire revivre des choses de la jahiliya parmi les musulmans, ces gens-là ils sont parmi ceux qui ont les plus grands péchés auprès d'Allah. Peu importe que ce soit des gens qui appellent les gens à le faire ou qui les fassent sans appeler les autres à le faire. Et l'obligation pour le musulman, c'est de délaisser tout ce qui a rapport avec la jahiliya, c'est-à-dire la période pré-islamique. Même si, il dit, si c'est des choses qui font partie, par exemple, des traditions d'égarement et de fausseté, eh bien, on doit les laisser parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné quelque chose qui est meilleur. Et qui fait en sorte qu'on n'a complètement pas besoin, on n'a pas du tout besoin d'autre chose, et surtout pas des choses qui ont rapport avec la jahiliya. Donc, celui qui, par exemple, essaie de faire revivre des reliques de la jahiliya, ou des choses qui ont rapport avec la jahiliya, et puis il essaie de les rénover, hein, et de les restaurer, comme ils disent. Pour que ce soit beau pour les visiteurs et les touristes qui viennent pour visiter ces lieux de la jahiliya et ils en sont fiers et ils veulent faire visiter ces choses-là aux gens comme le font certaines personnes dans certains pays, ils disent ça c'est pas correct du tout et c'est inacceptable dans l'islam, surtout qu'il y a certains parmi les soufis même dans les pays comme par exemple en Arabie Saoudite, et là les gens de Bid'a et les soufis, ils disent ah mais pourquoi l'Arabie Saoudite elle détruit nos reliques et les lieux historiques et notre patrimoine dans les pays musulmans, parce que c'est des endroits ou des lieux où les gens vont pour faire le shirk ou pour faire des bid'a, donc ils vont là-bas puis ils disent ah il faut aller visiter telle place, puis il faut faire telle chose et telle chose, alors que ces choses-là n'ont rien à voir avec l'islam, ni avec la sunna, mais eux, ils insistent à vouloir les faire. C'est comme l'exemple, pourquoi, par exemple, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a fait couper l'arbre de Al-Aqaba, où les sahaba ont fait la bay'a au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils savaient que s'ils laissent cet arbre, des gens vont faire le shirk avec cet arbre plus tard. Et ils vont vouloir commencer à, subhanallah, l'adorer ou chercher la baraka de cet arbre ou des choses de ce genre. Pourquoi? Parce que les gens sont comme ça, les gens sont ignorants ou bien ils suivent leur passion. Subhanallah, regardez combien de choses qui sont, les sahaba ont détruit pour éviter que les gens tombent dans l'ignorance et dans le shirk ou dans la bid'a par la suite. Hein? Donc tout ça c'est un exemple, et si les sahaba ont fait ça à l'époque pour préserver les musulmans, qu'est-ce qu'on doit dire donc à cause des gens aujourd'hui qui vont dans les pays musulmans pour aller visiter des endroits, subhanallah. Je me rappelle à Médine, quand j'étais là-bas, il y a un endroit, les gens allaient visiter, ils appelaient Sab'u Masajid. Sab'u Masajid, quand tu vas là-bas, il n'y a même pas... Sab'u Masajid, ça veut dire 7 mosquées. Mais quand tu arrives là-bas, tu trouves que c'est 7 petites construction là ou des bâtiments, c'est tout petit. Même un enfant peut pas rentrer là, c'est tellement petit. Et ils appellent ça Sab'u Masajid. Et là, moi, j'ai jamais compris. Mais en fait, je veux dire, j'ai passé devant, je sais pas combien de fois, peut-être des centaines de fois, mais j'ai jamais été voir qu'est-ce que c'était. Et j'ai jamais voulu non plus aller les voir. Mais quand c'était la période de Umrah et de Hajj, plein d'ignorants allaient à ces endroits-là pour visiter. Mais on sait pas c'est quoi même. Donc, ils les ont détruits. Maintenant, les soufis et les mubtadi'a, ils sont tous fâchés. Ils disent, oh, mais pourquoi l'Arabie Saoudite, elle détruit ça? Hein? Ajib, subhanallah. Alors qu'ils disent, ça, c'est notre patrimoine, c'est ci, c'est ça. C'est comme l'UNESCO. quand ils déclarent le Taj Mahal, ah, ça c'est un patrimoine. Les idoles, je ne sais pas, en Irak ou je ne sais pas où, ils disent, ah, ça c'est le patrimoine. Tout ce qui a rapport avec le shirk, c'est le patrimoine. Les pyramides d'Égypte, les statues de la Babylone, ou je ne sais pas quoi. Les tombes de Tombouctou, je ne sais pas quoi. Tout est un patrimoine. C'est quoi le patrimoine? Le shirk. Hein? Donc les musulmans, ils disent, ah, mais non, il ne faut pas détruire ça, ça c'est notre patrimoine, le patrimoine de l'humanité même, ils disent. Le patrimoine de l'humanité, c'est le tawhid, c'est l'islam, c'est pas le shirk et l'adoration des idoles et des lieux de hein, des choses que les gens y vont pour faire des bid'a et des choses de ce genre. Donc là, ils sont fâchés. Oh, pourquoi ils ont détruit la caverne de Hira? Ou pourquoi ils ont détruit à telle chose? Il y avait une je suis allé dernièrement, la dernière fois que je suis parti faire la Umrah à Mecca, subhanallah. Je suis passé devant un bureau, je sais pas, c'était un bureau, je sais pas c'était quoi exactement, un petit bâtiment en arrière de l'Haram. Et j'ai vu des gens, qui faisaient la queue pour aller faire rak'atayn devant la porte de cet endroit-là. Et le pire, c'est qu'ils font rak'atayn dans le sens contraire de la qibla. C'est ça que j'ai pas compris, la Kaaba est derrière eux, puis eux ils prient dans l'autre sens. Et j'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez ici? Qu'est-ce que vous faites? Il dit, non, ça c'est un endroit ici, c'est la maison dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né. J'ai dit, subhanallah. J'ai dit, qui vous a dit premièrement que c'était ici? Hein? Et qui vous a dit de faire rak'atayn ici? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, venez à l'endroit où j'étais né, faites rak'atayn à cet endroit-là? Il n'y a rien qui dit ça dans l'islam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a jamais fait. Ni les sahabas l'ont jamais fait. Ils n'ont jamais enseigné de faire ça non plus. Et il n'y a rien qui indique ça. Et eux, ils y vont. Et après, ils s'en vont à la tombe de Khadija. Ils s'en vont à la tombe de... Il y en a d'autres. Radiallahu anha. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais les gens, ils veulent suivre des exemples de bid'a et de shirk. Allah al-musta'an. Aynam. Après le cheikh il dit wa sunnatul jahiliya kullu 'adatin kanu 'alayha fa sunna hiya al-'ada wa hiya at-tariq alladhi tatakarrar wa litattasi' li anwa' an-nas mimma ya'udunahu 'ibadatan aw la ya'udunahu 'ibadatan wa qala ta'ala qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard. وقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم والاتباع هو الاقتفاء والاستنان فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم. Cheikh l'Islam, il dit que sunnatan jahiliya, ou sunnatul jahiliya, c'est toute tradition que les gens faisaient à l'époque. Et sunna, ça veut dire la tradition ou l'habitude, ou quelque chose qui se refait continuellement, ou l'habitude. Et il dit que ça peut s'appliquer à beaucoup de gens, de qu'est-ce qu'ils font qui est devenu une habitude de faire. Que ce soit une adoration ou autre qu'une adoration. Et il mentionne l'exemple dans le verset 137 dans sourate Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِرُوا فِي الْأَرْضِ. Donc on va regarder donc qu'est-ce que ça signifie قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ. Le verset 137, ça dit avant vous certes beaucoup d'événements se sont passés. Beaucoup de traditions se sont passées, beaucoup de choses se sont faites. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » C'est-à-dire le pluriel de sunnah, sanan. C'est-à-dire, vous allez suivre les exemples, les actions. Et le fait de suivre, ça veut dire de prendre l'exemple, de prendre comme modèle. Donc, toute personne qui agit selon leur exemple, leur modèle, et qui suit les exemples de ces gens-là, comment ils vivaient avant l'islam, eh bien, il a suivi la tradition ou la voie de la jahiliya. Et ça, c'est un texte général qui implique ou qui oblige de considérer comme étant interdit de suivre tout ce qui a rapport avec les voies de la jahiliya, que ce soit leur fête ou autre. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, mais je pense qu'on va laisser l'explication pour le prochain cours, Inch'Allah, puisqu'on est déjà arrivé à 1h15, donc je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui, Inch'Allah. À moins que vous soyez vous avez envie d'aller jusqu'à la fin de cette explication. Oui? Bon, ok. On va aller jusqu'à. On va faire encore 5-10 minutes. On s'arrête, Inch'Allah. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, pour expliquer ça, وَالسُنَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ كُلُّ عَادَةٍ كَانُوا عَلَيْهَا وَالْمُرَادُ بِالسُنَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْعَادَاتِ وَالتَّقَالِيدِ سواء الأقوال أو الأفعال وسواء اعتبروه عبادة أو عادة فإننا ممنوعون من تتبعه وبعثه والتشبه بهم بهذا كله لأن هذا يعلق القلوب بأهل الجاهلية وربما يفتح الباب لتغيير أحكام الإسلام وإحلال أمور الجاهلية مكانها ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. Le cheikh il dit que la sunna de la jahiliya, c'est toute tradition sur laquelle étaient les gens de la jahiliya. Qu'est-ce qu'on veut dire par sunna de la jahiliya? C'est-à-dire leur tradition, leur coutume, peu importe que ça fasse partie des actions ou des paroles des gens de la jahiliya, et peu importe que ces gens-là considèrent ce qu'ils faisaient comme étant une adoration ou comme étant une habitude ou une tradition seulement. Et il dit que nous, on a été interdits par l'islam de les suivre, hein, et de les suivre et de leur ressembler dans ce qu'ils faisaient dans toutes ces choses-là. Et il dit pourquoi? Parce que le fait de pratiquer ces choses et ces traditions, ça va rattacher les cœurs des musulmans aux gens de la jahiliya. Et donc ça, c'est pas permis. Et ça va ouvrir la porte à changer les règles de l'islam. Vous voyez que les koufars partout, comme par exemple l'UNESCO, comme je disais tout à l'heure, partout dans les pays musulmans, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de faire attacher les musulmans à leurs coutumes et à leurs traditions pré-islamiques. C'est ça qu'ils font. Comment les gens vivaient avant, quand ils étaient, avant d'être musulmans, avant que l'islam rentre dans ce pays-là, comment les gens vivaient? Qu'est-ce qu'ils adoraient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Comment ils s'habillaient? Et ils essaient de faire revivre ça pour que les peuples de ces pays-là retournent à la mécréance et qu'ils laissent l'islam. Na'am. Donc ça, c'est un des objectifs de ces kuffars, yani Allah al-musta'an. Et le cheikh, il dit donc, ça ouvre la porte à changer les règles de l'islam et yani, à remplacer les choses de l'islam par la jahiliya. Hein? Et c'est pour ça que Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait que le câble de l'islam va s'effiler, va se défaire fil par fil lorsque des gens vont grandir dans l'islam sans avoir connu la jahiliya. Des musulmans vont grandir dans l'islam sans avoir connu la jahiliya et donc ils vont commencer à aimer des choses de la jahiliya parce qu'ils ne les ont pas connues. Tandis que les musulmans qui ont grandi à l'époque de la jahiliya, avant l'islam, ils étaient dans la jahiliya. Puis ils ont connu l'islam après, ils ont quitté la jahiliya parce qu'ils ont connu la jahiliya, ils ont su à quel point elle était mauvaise, elle était laide, et ils l'ont détestée, et ils ont aimé l'islam pour ça. Mais ceux qui sont grandis dans l'islam, mais qui n'ont pas connu la jahiliya, ils grandissent dans l'islam sans connaître la réalité de la laideur de l'ignorance et du shirk et du kufr et de ces choses-là. Donc avec le temps, ils commencent à ne pas savoir qu'est-ce qui est mauvais dans la jahiliya, qu'est-ce qui est mauvais dans le shirk, qu'est-ce qui est mauvais dans le kufr, et commencent à se rapprocher et à pencher lentement et petit à petit vers le shirk et vers le kufr et vers l'ignorance. Et c'est ça ce qu'on constate, hein. tu vois des musulmans maintenant, des jeunes ou des vieux même, qui commencent à faire hein, l'apologie du shirk, l'apologie de l'ignorance et l'apologie des kuffars. Ah oh, mais non, il faut pas dire ça, ils sont pas... Hein, chercher des excuses hein, pour le shirk et le kuffar et pour les, tout ce qui avait rapport avec la jahiliya. Allah musta'an. فالناس يعني يحنون مع الجهل وطول الزمان إلى أمور الجاهلية ولذلك تجدهم الآن يحنون إلى إحياء الآثار والتراث الماضي وما أشبه ذلك وهذا ليس عبثا وإنما هذا بدافع من الشيطان ودعاة الضلال فإنهم إذا أحيوا آثار الجاهلية وأمكنة أمكنة الجاهلية فإن هذا يجر إلى إحياء السنن الجاهلية فينبغي سد هذا الباب نهائيا وأن نعرف خطط الأعداء الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر فهم يأتونهم من هذه النواحي وهناك منظمة عالمية تقوم على إحياء هذه الأشياء لاتباعه وذلك سبب لتعلق القلوب بأهل الجاهلية. Donc le cheikh il dit les gens hein, ils ont ce genre d'attachement yani avec leur ignorance et avec le temps qui passe à l'affaire de l'ignorance, aux choses de l'ignorance, et tu les vois maintenant ils ont cette affection envers le fait de faire revivre les anciennes reliques et les vieilles affaires historiques hein, du passé hein, du shirk et des choses de ce genre. Et ça c'est pas pour rien, le shirk dit c'est pas pour rien que les kuffars font ça. Ils font ça c'est le shaitan qui les pousse en arrière. Et ils font ça avec les gens qui appellent à l'égarement et ils ramènent ou ils font revivre ces anciennes affaires de la jahiliya qui existaient avant l'islam dans ces lieux de l'ignorance, parce que par la suite ça va les amener à faire revivre les voies de l'ignorance et de la jahiliya. Et donc il faut fermer cette porte complètement et une fois pour toutes, et il faut connaître également les ruses des ennemis de l'islam qui sont aux aguets et qui attendent les musulmans au revers du chemin hein, et au détour du chemin, et ils leur viennent de toutes les directions, de tous les côtés pour les égarer. Et il y a même une organisation internationale comme je disais tantôt, l'UNESCO hein, et d'autres, qui a comme objectif de faire revivre toutes ces choses hein, toutes ces choses là hein, et de faire en sorte que les gens les suivent. Hein? Pourquoi? Pour rattacher les cœurs de ces gens, des musulmans, aux gens de la jahiliya et aux gens de la pré-islam. Allah al-musta'an. Wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam la tattabi'unna sanana man kana qablakum amma qawluhu ta'ala fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukaththibin fal matlub السير في الأرض للنظر في آثار الدمار الذي حصل للكفار بسبب كفرهم، وذلك من أجل الاتعاظ والابتعاد عن الأعمال التي كانت السبب فيها فيما أصابهم. فالنظر في آثار الكفار من أجل الاعتبار والاتعاظ مطلوب، وقال الله سبحانه فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وقال سبحانه فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. ولهذا لما خرج الصحابة رضي الله عنهم إلى غزوة تبوك مروا بديار ثمود، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ولا يصيبكم مثل ما أصابهم. فالنظر في هذه الآثار من باب الاعتبار والاتعاظ والتذكير، أما النظر من باب الإعجاب والنظر إلى هذه الآثار حضارة تاريخ وتعظيم فهذا من أمور الجاهلية. Donc le cheikh il dit, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez suivre les voies de ceux qui vous ont précédé. En ce qui concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, et parcourez la terre et regardez comment a été la conclusion des gens qui ont traité la vérité de menteur ou qui ont traité les messagers de menteurs. Eh bien, qu'est-ce qui est voulu dans ce verset-là quand il dit parcourez la terre? C'est-à-dire d'observer les traces, hein, et la destruction qui est arrivée aux kuffars à cause de leur mécréance. Dans le but de prendre une leçon de ça et de s'éloigner de leurs actions qui ont été une cause dans ce qui leur est arrivé et dans ce qu'ils ont subi. Et donc, le fait d'observer les traces qu'ont laissées les kuffars dans le but de prendre des leçons et de réfléchir sur ça, ça c'est quelque chose qui est voulu par l'islam. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Parcourez la terre et regardez comment a été la conclusion des gens qui ont traité de menteurs. » Et qui ont traité de mensonge la vérité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, voici leur demeure qui n'est plus habitée, excepté un peu, hein, excepté hein, quelque peu. Donc ça c'est le verset 58 dans Surat Al-Qasas. C'est-à-dire leur demeure, elles sont encore là, mais elles ne sont plus habitées maintenant. Ces villes qui sont détruites, on les voit aujourd'hui, dans les pays musulmans même. Hein, subhanallah, des anciennes villes romaines abandonnées, des anciennes villes égyptiennes abandonnées, des anciennes villes babyloniennes ou autres abandonnées, tu les vois détruites, hein, ou complètement anéanties. Il n'y a plus personne qui vit de ces gens-là, de ce peuple qui était là, qui les ont construits. Plus personne de ceux-là n'existe aujourd'hui. Personne même aujourd'hui en a, ils ne savent même plus comment ils ont pu les construire à l'époque. Des fois, ils regardent ça avec étonnement. Le cheikh, il dit, tu dois aller là-bas, tu regardes ça. Si tu vas pas aller là-bas, mais si, il dit, tu regardes ça, tu dois regarder avec tristesse. Hein? Pas avec éblouissement, puis de dire, oh, man, comme ça, c'est bien, c'est beau, oh, la civilisation, ou ça, c'est grandiose, ou des choses comme ça. Non. Le cheikh, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti avec les sahaba, il est parti à la bataille de Tabouk. Il est passé près des demeures de Thamoud. Et il a dit, ne rentrez pas chez ces gens-là qui ont été châtiés. Excepté que si vous rentrez en pleurant. Il dit, parce que si vous n'êtes pas en train de pleurer lorsque vous rentrez, alors ne rentrez pas, pour que vous ne soyez pas atteint par ce qui a atteint ces gens-là. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Umar. Donc, le fait de regarder ces traces de restes de ce qui était de ces gens-là, si tu le regardes dans le but de prendre des leçons et de réfléchir sur ce qui est arrivé à ces kuffars parce qu'ils se sont détournés de l'ordre d'Allah et qu'ils ont mécru, que c'était des châtiments que Allah a fait tomber sur eux, hein, subhanallah, donc ça c'est hein, correct, tu peux profiter de ça. Mais si tu regardes avec éblouissement et tu regardes comme si c'était des traces de civilisation et d'histoire et de tu exaltes ces choses-là, tu les vénères, tu les élèves et tu montres comme si ça c'est des choses grandioses et tout, ça fait partie de la jahiliya, des choses de la jahiliya. Et donc, combien de gens maintenant, c'est ça ce qu'ils font dans les pays musulmans, hein? Et que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Afrique centrale, en Afrique du Nord, que ce soit en Égypte, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Turquie, ou en Inde, ou au Pakistan, ou ailleurs, partout ils font ça. Essayez de faire revivre ces choses-là. Et même si on dit, bon, c'est sûr que Daesh, c'est des Khawarij, c'est des égarés, hein? Mais quand ils détruisent, c'est comme Taliban avait détruit les Bouddhas ou des trucs comme ça. Ça, c'est pas des choses qui attristent le croyant, au contraire. Puisque ça, c'est des choses. Il y en a, s'ils détruisent des statues ou des trucs de shirk ou des idoles, il y en a, ça, c'est pas des choses qui sont contraires à l'islam. Hein? si on les blâme, pour des choses qu'ils font qui sont en contradiction avec l'islam, comme le fait de faire couler le sang des innocents, puis le fait de faire le takfir des musulmans, puis le fait de faire le désordre sur la terre, tout ça c'est des choses qui sont contraires à l'islam. Mais s'ils font des choses comme par exemple détruire des statues ou des idoles ou des trucs de ce genre, ça on les blâme pas pour ça, c'est quelque chose qu'ils font qui est correct. Et même s'ils pensent que ils essaient même de faire ça pour essayer de se justifier, pour montrer qu'ils essaient de défendre le tawhid, qu'ils essaient de détruire le shirk, pour essayer de camoufler tout l'égarement et le désordre qu'ils font, mais ils peuvent pas se justifier juste en essayant de faire ces actes-là, puisque on sait que le reste de leur aqidah et de leur manhaj, c'est des aqidah et des manhaj des khawarij et des gens de l'égarement. Na'am. Donc le cheikh il termine en disant wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadha min bab at-tahdhir. هذا من باب التحذير فهو إخبار معناه التحذير والنهي عن اتباع سنن الجاهلية ومن ذلك سنة الأعياد فما اعتاد أهل الجاهلية أن يجعلوه عيدا مكانيا أو زمانيا فإننا منهيون عنه. الشيخ الزي quand le prophète صلى الله عليه وسلم a dit vous suivrez les voies et les méthodes des gens de la jahiliya avant vous. Et ça, c'est dans le but d'avertir et de faire des mises en garde contre ce qu'il faisait. Et il dit que ça veut dire une information dans le but de mettre en garde et d'interdire de suivre les voies de la jahiliya. Que ce soit dans les exemples, il dit parmi les exemples de ça, les fêtes qu'il faisait. Si les gens de la jahiliya, ils avaient des fêtes qui se répétaient à des lieux précis ou à des moments précis, eh bien nous, on n'a pas le droit de les fêter, ces fêtes-là. Et c'est qu'est-ce que tu vois comme par exemple nous les musulmans, on doit être conscient qu'on n'a pas le droit d'imiter ou de fêter ou de suivre les exemples des koufars, peu importe qui ils sont, peu importe où ils sont. Tu vois par contre chez les chrétiens, ça j'ai remarqué par exemple quand il y a des dirigeants koufars, hein, comme par exemple le président des États-Unis ou bien des fois des ministres du Québec ou d'autres. Subhanallah, ils vont par exemple visiter des juifs, ils mettent la kippa, ils s'habillent comme les juifs. S'ils vont entrer, ils vont en aide, ils vont rentrer dans le temple bouddhiste ou hindou, ils vont se prosterner au statut des bouddhistes. S'ils vont chez les musulmans, ils vont rentrer dans la mosquée, ils vont prier avec les musulmans. Non, ils vont pas mettre le vêtement, mais j'ai vu des gens qui font ça. C'est comme si tandis que nous, le musulman, on va pas changer comme ça. Si un musulman, il va aller visiter les bouddhistes, il va pas rentrer adorer les bouddhistes avec les bouddhistes, il va pas adorer les idoles avec les hindous, il va pas changer son vêtement pour mettre la kippa pour faire comme les juifs. Et tu vois, chacun, on suit notre religion, puis ça s'arrête là. On va pas participer aux croyances de shirk et d'égarement des autres peuples. Mais eux étant... Oui, et en plus, eux, ils n'ont pas... Ces gens-là, ces chrétiens-là, ils se disent... Hein, ils prétendent suivre une religion, mais en réalité, tellement ils n'ont pas de fondement qu'ils sont d'accord de se pratiquer n'importe quelle religion de shirk ou de kufr en dehors de leur propre religion de shirk, et ils ne réalisent même pas que c'est contradiction. Ils disent, tant que tu voles pas, tu mens pas, tu tues pas, tu fais pas les grands péchés, ça a été correct. Alors que non, même si tu voles pas, tu tues pas, tu ne fais pas de mal à quelqu'un, mais que tu fais le shirk, tu vas aller en enfer pour l'éternité. Tandis que si tu as volé, tu as tué, tu as menti, tu as fait du mal aux autres, mais que tu étais sur le tawhid, tu vas pas aller en enfer pour l'éternité. Même si tu rentres en enfer, Allah peut te punir pour te mettre en enfer, mais tant que tu es mouahid sur le tawhid, tu ne vas pas rester éternellement en enfer. Et non seulement ça aussi, c'est que c'est seulement celui qui a du ilm et qui connaît le tawhid qui est protégé de ça et qui est préservé de ça. Celui qui est dans le shirk ou dans l'égarement ou dans la bid'a, il va participer avec les mouchriquines ou avec les gens d'égarement, ça ne lui dérange pas. Oui, et ça c'est les idéologies des francs-maçons. C'est les francs-maçons qui appelle à ça, à l'unification des religions et à la pratique des religions, hein, de toutes les religions. Dire on veut unir toutes les religions ensemble, il ne faut pas diviser l'humanité à cause de leurs croyances religieuses ou des choses de ce genre. A'udhu billah. Hein? S'il y a quelque chose qui est un dénominateur chez les êtres humains et qui est justifié, c'est la croyance et la pratique. Parce que si tu ne suis pas la croyance qui vient d'Allah et la pratique qui vient d'Allah, tu es dans l'égarement. Le cheikh il dit ensuite, ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وقال إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة اسم موضع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن أو أوثان الجاهلية يعبد يعني هل كان فيها في الزمان الماضي وثن قالوا لا قال وهل فيها عيد من أعيادهم قال لا قال أوف بنذرك فدل على أن أعياد الجاهلية لا يجوز إحياءها أو تتبعها وإنما تترك تندرس وتذهب والرسول صلى الله عليه وسلم منع من الذبح فيها حتى لو لم يقصد هذا الشيء ولو كان الذابح يذبح لله ولكن إذا ذبح في مكان كانت الجاهلية تعظمه وتذبح فيه فإن هذا ذريعة لإحيائها وذريعة للتشبه بهم ودين الإسلام إنما جاء بسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك والبدع. Donc le cheikh il termine en disant qu'il y a un homme qui est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Il lui a demandé à propos du fait d'aller remplir un vœu, puisqu'il avait fait un vœu qu'il allait sacrifier un chameau à un endroit qu'on appelle Bawana. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce qu'à cet endroit-là, il y avait une idole parmi les idoles que les gens de la Jahiliya adoraient? Et il veut dire, est-ce qu'à cet endroit-là, dans le passé, il y avait une idole? Ils ont dit non. Alors il a dit, est-ce qu'à cet endroit-là, il y avait une fête? Ou quelque chose que les gens venaient, un festival, ou quelque chose que les gens faisaient régulièrement, chaque année? Il a dit non. Alors il a dit, dans ce cas-là, va remplir ton vœu. Il dit, ça c'est la preuve que tout ce qui a rapport avec les fêtes de la Jahiliya, il n'est pas permis de les faire revivre ou de les suivre. Et on doit les laisser, être oubliés et perdus, se perdre et partir. C'est-à-dire disparaître. On lui a laissé disparaître ces traditions-là. Et on est interdit d'aller égorger quoi que ce soit dans ces endroits-là. Même si notre intention, c'était pas d'aller égorger pour ça. Comme même si tu voulais égorger juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais du moment que c'est un endroit dans la Jahiliya, les gens allaient pour égorger une idole ou quelque chose qu'il vénérait, eh bien dans ce cas-là, tu dois t'empêcher de le faire pour fermer la porte à faire revivre des traditions et des pratiques de la Jahiliya, ou pour éviter de leur ressembler, parce que la religion de l'islam est venue pour fermer la porte à tout ce qui peut amener au shirk et au bid'ah. Donc, ça c'est ce qui vient conclure le cours d'aujourd'hui, inshallah. On continuera la semaine prochaine. Inch'Allah, subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.